Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 8 pour notre méditation de ce jour. Ésaïe, chapitre 6, les 8 premiers versets. Au nom de Jésus. C'était l'année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint ! Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, « Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont impures pour me joindre à cette louange. » Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi impures. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » Et j'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ? » Et moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Amen. Vous avez vu le thème de ce matin, « Tout ça pour ça », oui. Et nous connaissons bien cette expression, « Tout ça pour ça », pour exprimer qu'on a peut-être déployé beaucoup trop de moyens, trop d'énergie pour un maigre résultat. Cette phrase peut aussi exprimer une action immense, colossale, ou fournir beaucoup de force, pour une action qui, peut-être à nos yeux, ne mériterait pas grand-chose. C'est l'impression que j'ai eue en lisant le texte de notre lectionnaire de ce jour. Rien que dans la structure du texte, du verset 1 à 6, l'auteur décrit minutieusement et scrupuleusement la splendeur et la force de la vision qu'il a vue. Regardez bien comment il décrit la majesté de Dieu. Il n'y a pourtant que 2 versets qui parlent d'Ésaïe. Regardez, 6 versets ne fait que décrire Dieu. 2 versets juste pour Ésaïe. Donc le texte ici se focalise sur Dieu, sur ce qu'il est. Et face à ce qu'il est, comment il agit vis-à-vis de ce Ésaïe. Par ailleurs, si nous prélevons des éléments cités dans le texte, la façon dont l'auteur décrit ce qu'il a vu est époustouflant, voire même intimidant. Il dit qu'il a vu le Seigneur. Déjà là, mes amis théologiens de haut vol, les personnes que je qualifierais de carrées, théologiquement parlant, ils sont carrées, ne seraient acceptées qu'un homme pourrait voir le Seigneur. Tout de suite, ils vont dire, non, mais c'est une image, c'est une métaphore, c'est pas possible qu'un être humain ait pu voir l'Éternel. C'est insensé. Oui, ils ont raison, d'un côté. Peut-être qu'il a vu une hallucination, disent certains théologiens, dans leurs commentaires. Peut-être sous le coup de l'émotion, donc, parfois, certaines personnes disent qu'ils ont vu quelque chose. Mais je laisse de côté cette remarque. Ensuite, il dit qu'il l'a vu assis sur un trône très élevé. Pourquoi ce détail ? Impressionnant, exprimant une autorité suprême. Il aurait pu dire seulement « je l'ai vu assis sur un trône », mais il a dit « très élevé ». Et, contrastement, il dit « et j'ai vu le bas de son vêtement, très élevé, et ensuite le bas de ses vêtements ». Toute cette façon d'écrire a un objectif. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Faites une imagination dans vos têtes, faisant allusion à une idée de majesté. Vous voyez un peu les grands rois de l'époque, les empereurs, avec leur parure impériale. Louis XIV, paraît-il, avait des traînes qui mesuraient je ne sais pas combien de mètres, pour montrer la force, la majesté, la gloire d'un roi. C'est l'image que Ésaïe a vue, mais qui a rempli tout le temple. Ça veut dire qu'il exprime la gloire, la majesté, la toute-puissance. Donc on voit ici une vision très forte. Un peu plus bas, il est dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Non seulement le temple, mais même la terre. Donc c'est comme si on voyait une coupe qui débordait. Et cette gloire de Dieu a atteint Ésaïe. Une gloire impressionnante, car même les séraphins, les anges, qui sont des serviteurs fidèles et loyaux, ont dû couvrir de leurs ailes leurs jambes, tellement la puissance qui se dégage de ce trône est trop forte. Donc il fallait couvrir leur corps, leur face, devant la toute-puissance qui se dégageait de ce trône. Alors il est plus que normal qu'Ésaïe, en voyant ce spectacle époustouflant, mille fois plus époustouflant, je pense, qu'une entrée en vedette des grands chanteurs que nous connaissons, qui déploient des tonnes de matériel, de lumière, de son, d'effets spéciaux, pour faire bonne impression à ses fans. Et vous voyez, les fans de ces chanteurs connus, parfois ils s'évanouissent, rien qu'en voyant leur star, avec tous ces effets spéciaux. Et lui, il a eu la même chose. Il dit, mais c'est quoi ce que j'ai vu ? Il a eu peur parce que, comme je l'ai signalé dans l'introduction, il était conscient, Ésaïe, qu'il était en face de l'Éternel. Il était sûr de ce qu'il voyait. Et il connaîtrait bien les sorts qui arriveraient à ceux qui s'amuseraient à voir la face de Dieu. Rappelez-vous, Moïse avait demandé, j'aimerais voir ta face. Et Dieu a dit, c'est impossible. Le jour où tu me verras, tu seras mort. Mais Ésaïe a eu une exception. Et moi, je ne discute pas avec les textes. Oui, théologiquement parlant, c'est impossible. Mais bibliquement parlant, je dis, c'est possible. Dieu peut faire ce qu'il veut. S'il a décidé de se montrer à quelqu'un, qui le critiquerait pour dire, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Il l'a fait avec Ésaïe. Ésaïe seul. Et cette histoire n'est plus revenue plus tard. Et pourtant, à la grande surprise d'Ésaïe, il était étonné qu'il n'était pas mort. La gloire, chers amis, et la majesté divine ne sont pas une force qui écrase. Même s'il y a cette toute-puissance, ce n'est pas une force qui écrase malgré sa puissance. Oui, tout ça, juste pour Ésaïe. Il n'y avait pas une foule, il n'y avait pas toute une cour de rois, un simple pécheur. Et Dieu a déployé toute la majesté céleste, rien que pour Ésaïe. Ça m'a bouleversé. Tout ça pour ça ? Oui. Dieu déploie toute sa splendeur pour venir à la rencontre de son futur prophète. Tout ça pour avoir son oui. Est-ce que tu veux que tu sois mon envoyé ? C'est juste pour avoir ça. Juste pour avoir ce oui. Oui, envoie-moi. Regardez la fin du texte. Est-ce que Dieu aurait besoin de faire tout ça? Oui, il l'a fait. Un roi qui met ses habits cérémoniaux n'est pas un acte minime. Les tenues vestimentaires portées par les rois et les nobles ont toute une signification importante sur le plan protocolaire. Le fait de mettre, c'est pas eux qui choisissent leurs vêtements, c'est en fonction d'un rendez-vous. Si l'invité ou celui qui sera venu au palais est quelqu'un de très important, en fonction de cela qu'il choisit ses vêtements. Et si Dieu ici s'est mis en, on va dire, dans son tenue céleste, parce que Ésaïe est très important à ses yeux. Même si Ésaïe dit « Je viens d'une tribu, la plus modeste ». Vous voyez le contraste, hein, c'est impressionnant. Donc, l'enjeu est important pour Dieu. Pour Ésaïe, ce n'était pas la peine de le faire, mais pour Dieu, si, ça valait la peine. Il vient à la rencontre d'Ésaïe pour l'appeler pour être son porte-parole. Ça veut dire quelqu'un qui accepte d'être porte-parole de Dieu a l'estime de Dieu, a l'estime de tout le ciel, de toute sa magnificence. Comment il se met face à lui? Le respect que Dieu a vis-à-vis de son serviteur est renversant. En principe, c'est à nous, êtres humains, de faire le nécessaire pour rencontrer Dieu. C'est à nous de nous déployer, c'est à nous de nous sacrifier, c'est à nous de se plier en quatre pour être prêts, faire face à Dieu. Mais ici, c'est le contraire, c'est Dieu qui s'est plié en quatre pour rencontrer Ésaïe. C'est Dieu qui donne le maximum pour avoir juste l'adhésion, juste l'acceptation d'Ésaïe pour la mission qu'il l'a confiée. Mes amis, notre Dieu ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit pour l'être humain. Regardez la création. Nous sommes toujours étonnés quand les scientifiques découvrent de nouvelles choses. Tout ça pour qui ? Dès la création, les grands scientifiques ne cessent de s'émouvoir de la formation de notre galaxie, de l'univers. Tout ça pour moi, pour l'homme, pour l'être le plus minuscule par rapport à tous les êtres vivants. Oui, tout ça pour ça. Les récits de la création montrent très bien que la force créatrice divine est au service de l'homme grand H. Et quand il a tout fini de créer, là il a placé l'homme dans le jardin et lui donne tous les pouvoirs. Pas une partie. Tous les pouvoirs. Tout ça t'appartient. Et pourtant tu n'as pas contribué à une seule espèce. Et il te dit, tout ça est toi. Moi, je ne fais que te donner tout ça. Et l'histoire du salut, le grand pas inimaginable que Dieu a fait, venir descendre sur terre acceptant l'inacceptable, c'est-à-dire un Dieu qui accepte de vêtir un corps humain. Dans toute religion qui existe sur cette terre, c'est une abomination. Chez les musulmans, on appelle ça de l'associanisme. C'est blasphématoire qu'un Dieu peut s'associer à un humain. Mais Dieu a outragé ce blasphème. Il a tout fait pour venir vers nous. Il a accepté l'inacceptable. Et pourtant, il l'a fait. Encore une fois, pour qui? Pour toi, pour moi. Et enfin, le temps de la fin des temps, que nous attendons tous avec la grande vision que Jean avait vue. Qu'est-ce qu'il est dit? Il va tout raser, tout détruire et faire descendre la nouvelle Jérusalem, encore une fois pour toi et moi, pour que nous puissions entrer dans le Saint des Saints. En revenant à la structure de notre texte de base, en voyant tout ce qui a été déployé, force, autorité, majesté, gloire, on aurait pu imaginer qu'il va user de cette force pour forcer la main à Ésaïe d'accepter la mission qu'il voudrait me confier. Eh bien non. Il a tout fait. Et à notre grande surprise, qu'est-ce que Dieu a dit ? Qui enverrai-je ? Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Il y a une démonstration de force. Il montre ses muscles. Il montre sa majesté. Il montre sa divinité. Il montre qui il est. Normalement, la suite, ça devait être toi, petit, à genoux, devant moi. Accepte ce que je te dis. Normalement, c'est ça que ça devait suivre dans le texte. Mais lui dit, qui enverrai-je ? C'est comme s'il demande l'avis de Isaïe. Et lui, il demande son avis. Qui enverrai-je ? Il ne dit même pas, est-ce que tu iras ? Il demande comme s'il demandait à d'autres personnes, qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Et là, Isaïe, en voyant tout ce qu'il avait vu, il a dit, non, je ne peux pas refuser. Envoie-moi. Incroyable, mais vrai. On a ici un Dieu qui demande l'avis de sa créature. Un général ne demanderait jamais l'avis d'un caporal. Le président de la République ne demanderait jamais l'avis de ses subalternes. Un roi ne demanderait jamais l'avis de ses subordonnés. Et si notre Dieu dit, acceptes-tu que je t'envoie ? Il ne l'oblige pas, même s'il est Dieu et qu'il a autorité sur lui. Non, il demande notre avis. Et il respecte si nous refusons. Jésus a repris cette idée générale dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur la terre, au ciel et sur la terre. Ça exprime un souhait. Alors le Seigneur t'adresse aujourd'hui, humblement, veux-tu être mon porte-parole ? Si tu acceptes, n'aie pas peur, car il faut que tu te rappelles que celui qui t'appelle, celui qui t'envoie, c'est ce Dieu qu'Ésaïe a vu. C'est pas n'importe qui t'envoie. Et il t'envoie là où il sera avec toi. C'est ce Dieu qu'il a vu là, avec toutes ses autorités et toutes les forces. C'est pas avec ta force. Vous venez d'entendre la lecture tout à l'heure, Paul qui dit, moi qui n'ai rien du tout, moi qui a persécuté l'Église. Et pourtant, ce Paul-là, il a fait plus que les 12 disciples de Jésus-Christ. Celui qui a tué les chrétiens est devenu le leader de l'Église. Et s'il n'y avait pas Paul, je crains que l'Église n'aurait pas existé. Voilà comment Dieu transforme quelqu'un pour devenir une source de bénédiction. Si tu acceptes, bien sûr. Amen.